Radio PFM, 11h et quelques secondes en direct et en public du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Guy Le Polarski au micro pour une rencontre autour d'un recueil de nouvelles dont le héros est un détective débutant nommé Dashiell Hammett. Un recueil intitulé Hammett, détective aux éditions Syros. 2015. Parmi bien d'autres commémorations, est aussi l'année d'un centenaire qui devrait particulièrement toucher les amateurs de romans noirs. Heureusement que Nathalie Benin, la spécialiste française de Dashiell Hammett, ce n'est qu'un de ses nombreux talents, mais c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Heureusement que Nathalie Benin veille au grain. Elle n'a pas oublié qu'en 1915, Dashiell Hammett, qui n'est autre que le créateur, le fondateur du roman noir américain, et de fait du roman noir tout court, à l'âge de 21 ans, était embauché comme détective privé par la plus célèbre agence des États-Unis, la Pinkerton. À partir de là, Nathalie Benin est à l'origine d'un livre, donc Hammett détective, en forme de hommage, finalement, un livre consacré à celui qui exercera plusieurs années cet intrigant métier de détective, avant de passer à l'écriture et de raconter, bien évidemment, des histoires de détective, des histoires qui permettront à Hammett de donner à voir, je vous cite Nathalie Benin, un monde âpre et violent où les criminels, mafieux, escrocs ou assassins n'ont rien à envier aux politiciens corrompus, avides de pouvoir. Autrement dit, de la littérature témoin de son temps, pour reprendre la célèbre expression de Jean-Patrick Manchette, sans doute l'auteur français qui s'est le plus inscrit dans cette écriture à vif. Alors, ce livre hommage est un hors-série de la collection Rat Noir des éditions Syros, collection de polars dédiée aux adolescents, composée de 8 nouvelles écrites par des auteurs qui avaient pour consigne inventer une histoire de pure fiction dont le héros serait un détective débutant nommé Dashiell Hammett. Pour parler de ce livre, nous recevons donc Nathalie Benin. Nathalie Benin, bonjour.
Bonjour.
Et puis deux des contributeurs, le mot est faible, deux écrivains donc, qui ont contribué à ce recueil, à cet hommage. Le premier est un habitué du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, habitué aussi de Radio PFM, mais il vient d'ailleurs de pas très très loin. Non. Et il est endurant puisqu'il fait un peu frais là, ce matin sur le studio mobile de PFM. Il a donc l'habitude de ces températures assez fraîches. C'est en quelque sorte le régional aussi de l'étape de ce recueil de nouvelles. Jérôme Leroy, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous avons la chance d'accueillir au salon et à nos micros de Radio PFM, Tim Willox. Tim Willox, bonjour.
Bonjour.
Tim Willox qui nous arrive de Rome, comme vous pouvez l'entendre à son accent. Non, Tim Willox qui nous arrive de Rome où il réside actuellement, mais écrivain qui a connu un énorme succès, notamment avec le roman La Religion, un auteur incontournable du roman noir anglais, du roman tout court, pourrait-on dire. Maxence Gaziecki sera l'interprète de Tim Willox. Merci, Tim Willox, merci à lui. Alors, avant tout, Nathalie Benin, expliquez-nous comment vous en êtes arrivée à devenir cette spécialiste de Dashiell Hammett et d'où vous est venue cette idée d'hommage au Hammett détective.
D'où j'en suis venue, je ne sais pas. Ce serait une longue histoire. Non, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à la littérature en général et au roman noir en particulier, c'est de montrer peut-être l'extrême modernité d'un auteur comme Dashiell Hammett, qui est toujours estampillé père fondateur du roman noir américain, comme on a pu dire de Jean-Patrick Manchette qu'il était le père fondateur du néo-polar français, étiquette qu'il réfutait. Je parle de Manchette parce que vous l'avez abordé et qu'on va fêter cette année les 20 ans de sa mort et que L'héritage sur Manchette, de justement cet auteur qui est Dashiell Hammett, est important. On en parlera, je pense, au cours de ce débat, notamment avec Jérôme, qui connaît très bien Hammett et très bien Manchette, Jérôme Leroy. Et comment j'en suis venue? Écoutez, quand on aime la littérature, engagée, on ne peut que s'intéresser à Hammett. J'étais... vous citiez là un passage de la postface, c'est pas parce que c'est ma postface, mais c'est aussi un des points importants que j'ai indiqué aux auteurs sollicités pour cette anthologie. C'est cette idée de l'engagement. Et hier soir, en écoutant le débat à l'ouverture du festival, et notamment ce que disait Edoui Plenel sur la capacité que nous avons pour être humains à dire non, c'est une chose justement que Manchette admirait beaucoup chez Ahmed. C'était quelqu'un qui disait non et qui était entré en résistance à sa façon. Donc, assez étrangement, les deux auteurs qui sont là ne sont pas les seuls à avoir écrit des nouvelles sous l'angle politique, mais il se trouve que et Jérôme Leroy et Tim Willox ont écrit des nouvelles que je trouve éminemment politiques, justement parce qu'elles ne sont pas ni dans l'idéologie ni dans la démonstration. Elles sont vraiment politiques au sens amétien du terme, c'est-à-dire cette façon très subtile de montrer les choses et pour les dénoncer, mais en tout cas de donner à voir. Et donner à voir, c'est le propre de la littérature noire qu'a inventé Ahmed, c'est-à-dire cette littérature qu'on a baptisée du regard. On y reviendra, je pense, sur ce style comportementaliste qui fait la marque de fabrique de Ahmed et de ce qu'il a inventé, en fait, au début des années 20 à travers ses nouvelles.
Alors, Nathalie Bonnat, il n'y a pas d'auteur américain dans les 8 auteurs qui ont écrit des
nouvelles.
Non,
il y a des auteurs. En fait, l'idée, c'était de demander aux auteurs qui avaient été publiés par les éditions Siro, soit en souris noire pour les collégiens, soit en rat noir pour les lycéens. Donc ce sont des auteurs qui ont déjà publié chez Siro. Il se trouve que Tim Willox, qui est britannique, avait déjà publié un livre qui s'appelle Doglands, donc il avait tout à fait sa place dans cette sélection. Donc ça, c'était un petit peu l'idée, c'était de demander à la fois des auteurs de la maison et aussi, la deuxième idée, c'était des auteurs qui s'inscrivent peu ou prou, soit par leur univers, soit par leur façon d'écrire, leur style, leur imaginaire, qui s'inscrivent dans l'héritage d'Achel Ahmed, parce que, bon, on discute avec ces auteurs et on sait un peu ce qu'ils ont comme goût littéraire. Et donc voilà, ça c'était un peu ce qui a prévalu au choix des auteurs. Ensuite, vous l'avez dit, l'idée c'était cette idée fort romanesque qui consiste à dire Ahmed, il a une vingtaine d'années, 21 ans exactement, on est en 1915, il a son premier vrai boulot à la Pinkerton. Et en fait, en entrant à la Pinkerton, en devenant détective, sa vie va changer. Elle va grandement changer, mais évidemment lui ne le sait pas, et je trouvais que c'était vous l'avez dit un peu, il ne sait pas qu'il y aura la guerre, il ne sait pas qu'il sera frappé par la tuberculose et qu'après 5 ans d'exercice comme détective privé à la Pinkerton, il ne pourra simplement plus l'exercer parce qu'il est très malade et physiquement il ne peut plus, et il va trouver une autre solution, c'est l'écriture. Donc voilà.
Alors, on va revenir sur l'aspect littérature jeunesse, mais Jérôme Leroy, donc vous recevez cette demande de Nathalie Bonnat. Comment réagissez-vous et peut-être justement le lien avec le choix que ce soit un hommage rendu dans une collection pour adolescents, littérature jeunesse-adolescent.
Oui, d'abord, bien. Je suis content quand même quand on vous demande ce genre de choses. Ça prouve aussi que Nathalie connaît son portefeuille d'auteur, si je puis dire, parce qu'il y en a qui sont effectivement plus ou moins amétiens, indépendamment de leur qualité intrinsèque. Être amétien, c'est certainement, ça veut dire effectivement avoir une vision de la littérature noire comme une forme de critique sociale, même si, Nathalie l'a bien dit, si on veut vraiment être amétien, il ne faut pas non plus s'amener avec un catéchisme tout fait derrière. Donc voilà, alors ça je le prends très bien. Après l'exercice en soi, j'en ai parlé avec d'autres contributeurs, peut-être c'était un peu moins difficile pour Tim qui appartient même au sens large à l'espace anglo-saxon, mais effectivement trouver une histoire qui se passe, donc une histoire courte quand même, c'est une nouvelle, où il faut restituer l'atmosphère d'une époque qu'on ne connaît pas, à la fois éloignée dans l'espace et dans le temps. Donc c'était la principale difficulté, mais sinon moi c'est quelque chose qui j'ai tout de suite dit oui, effectivement le pari était extrêmement intéressant à relever. Quant à la deuxième partie de votre question, qui était savoir que c'est le public prioritaire, enfin le premier public, je serais tenté de dire, serait des ados, mais rien n'empêche que ce soit pour que ce soit lu par des adultes. D'ailleurs, dans certains articles de presse, c'est traité comme un recueil pour adultes. Il n'est même pas fait mention que c'est pour les ados. Mais en même temps, effectivement, enfin en moi, en ce qui me concerne, ça suppose disons quelques précautions d'usage. Qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec une forme de censure qui serait en général sur la violence ou le sexe. Ça suppose effectivement d'avoir une certaine forme de traitement, mais c'est d'autant moins difficile là pour le coup que le personnage c'est Dashiell Hammett à 20 ans et qu'à 20 ans, je veux dire, on est même si lui il a une vie dès 14 ans, il était sur le dur, mais à partir de 20 ans, c'est encore pratiquement une perspective adolescente sur la vie. Et justement, ce que Nathalie nous a demandé de s'intéresser à la période de 1915, c'est justement peut-être son passage à l'âge d'homme. Et ça, c'est typiquement un sujet de littérature ado. Tel que voilà, c'est ce passage.
On y reviendra, hein, Jérôme, ensuite, mais vous avez contourné un petit peu d'une certaine manière.
Ah, mais moi, c'est d'accord. On peut le dire, c'est que moi, je pars du principe, effectivement, que si ça se passe en 1915, c'est un flashback d'Hammett au moment de la période de McCarthy. Mais ça, on y reviendra peut-être.
Ouais, on va revenir
Mais c'est pas contourné, parce que 1950, c'est aussi loin que 1915. On est un Français. L'Amérique de 50 ou de 1915, c'est aussi loin que pour un Français de 2015. Mmh. Bah, voilà.
On va revenir sur le flashback, parce que c'est un point commun avec
Tim, ouais.
Avec Tim, hein, parmi ces nouvelles, mais d'abord Tim Willox, donc comment vous avez réagi à cette demande, comment vous avez pris cette demande, cette commande de Nathalie Bona pour écrire une nouvelle sur Hammett Détective?
Well, I'm a great admirer of Dashiell Hammett, so it was a great pleasure to accept this invitation.
C'est un grand admirateur de Dashiell Hammett et il a été ravi de recevoir cette invitation.
Hammett represents such a kind of complex constellation of concerns and themes that are of great interest to me, such as the American labor movement.
Dashiell Hammett, en fait, il représente un amalgame complexe de toutes ces inquiétudes et de tous ces intérêts que partage Tim Willox sur notamment les mouvements ouvriers américains.
I was always, when I was younger, I was very interested in the industrial workers of the world, the Wobblies.
Il était très intéressé par le syndicat des Institutional Workers of the World, les syndicats internationaux du travail, les Wobblers.
And the American socialist movement.
Et le mouvement socialiste américain.
It's largely forgotten now, but the American socialist movement in the first third of the 20th century was very strong.
On ne sait peut-être pas, mais le mouvement des travailleurs américains dans le premier tiers du 20e siècle était très puissant et très influent.
I was always very interested in figures like Eugene Debs, who was the leader of the American Socialist Party and ran for president from inside jail. He was in prison and he ran for president.
Donc il était très, très intéressé entre autres par Eugene Debs qui était le leader des socialistes américains et qui était candidat à l'élection présidentielle américaine à l'époque et qui a fait sa candidature de prison parce qu'il était emprisonné à l'époque.
And Woody Guthrie also wrote some great songs about those events.
Et Woody Guthrie a fait des chansons magnifiques à propos de ces événements.
Such as the 1916 massacre and the Ludlow massacre.
Comme le massacre de 1916 et le Ludlow massacre.
Ludlow
massacre.
And one of the common themes is this battle between the power of the wealth, the power of the state versus the fight of the working man to get some justice in life.
Donc il était très intéressant de voir la différence entre le pouvoir de l'État et la quête de justice sociale des travailleurs.
And this story was a chance to incorporate all those references and themes.
Et cette nouvelle en fait était l'occasion idéale pour montrer cela en fait.
Oui, donc on va revenir sur le choix, hein, votre choix à tous les deux de la technique du flashback qui vous permet, effectivement, ça a été évoqué déjà, l'aspect très politique de d'Achille Lameth, de son œuvre, de son engagement politique. D'Achille Lameth, à 21 ans, s'élève, s'éveille à cette prise de conscience, à cet engagement politique. Et donc vous avez choisi le flashback justement pour faire apparaître de manière plus importante cette dimension politique d'Achille Lameth. Jérôme Leroy.
Ouais, alors moi, l'idée était quand même que, en fait, c'est très ambigu. C'est à la fois une histoire politique, effectivement, comme... comme vient de le dire Tim, au sens historique du terme, de lutte, voilà, c'est cette période-là. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois, je reviens sur l'idée que c'est vraiment un sujet de littérature ado, puisque c'est quand même son passage à Pinkerton, c'est quand même de l'ordre du roman initiatique, c'est-à-dire où on découvre finalement que ceux qui vous aident ne vous aident peut-être pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, moi l'idée était que son chef d'antenne, celui excuse-moi le nom, mais
James Wright.
Voilà, James Wright, soit en fait, soit un père, mais comme tous les pères à un moment donné deviennent saturniens et veulent bouffer son enfant. C'est ça l'histoire de ma nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je résume en fait, c'est que c'est le moment. J'accélère d'ailleurs les choses parce que ça arrive un peu plus lent chez Hamet la prise de conscience. Mais c'est l'idée que de toute façon, hop, j'arrive chez Pinkerton, j'apprends un métier super, je suis détective, je vais dans l'Ouest, je vois des tas de trucs, etc. Et puis en fait, je tombe chez, parce que c'était quand même ça Pinkerton, faut pas l'oublier, je tombe en fait dans une milice patronale qui casse les grèves au profit des grands patrons, les barons voleurs, etc., qui cassent les grèves et qui, je veux dire, en tirant dans le tas. C'est d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouvera dans Moisson Rouge. Donc, moi, je voulais se concentrer ça en une nouvelle parce qu'effectivement, très souvent, les sujets presque l'archétype de la littérature pour ados, c'est aussi cette idée que on découvre la vraie nature de gens dont on croyait qu'ils nous aimaient ou à l'inverse qu'ils ne nous aimaient pas. Et ça, c'était un moyen de le montrer. Et la dimension politique, pour répondre à votre question, la dimension politique pour montrer que Hamet fait cette prise de conscience là, à ce moment-là, je montre ce que ça donne 30 ans après. Enfin, je commence par montrer ce que ça donne 30 ans après, c'est-à-dire quand il est poursuivi en 1951, il est poursuivi par la commission des activités anti-américaines, autrement dit McCarthy. Autrement dit, la chasse aux sorcières, parce que Hamet était proche, voire, ça c'est la biographe dira mieux que moi, mais il n'y a pas de preuve absolue, enfin, il était probablement membre du Parti communiste américain quand même, enfin j'aime à le croire.
On ne sait pas.
Et donc, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, il était extrêmement proche.
Il était très proche.
Il était très proche, et très proche de toutes les organisations crypto-communistes qu'il y avait autour. Donc, il est poursuivi pour ça, et contrairement à d'autres, il ne balance rien. Dans un petit texte, dans c'est pas celui actuel, mais qui s'appelle Interrogatoire, il a une réplique récurrente qui est qu'il ne va pas, répondre à cette question parce que ça pourrait lui nuire ou nuire aux gens qu'il connaît. Et il est d'un courage exemplaire. Et ça, finalement, j'ai pris les deux dans cette nouvelle, grâce au flashback, j'arrive à tenir, j'essaye de tenir les deux bouts de ce qu'est le destin d'homme, le destin politique d'Hamet, c'est-à-dire cet engagement de plus en plus, qui n'exclut pas le patriotisme en plus, parce qu'il est volontaire pendant les deux guerres mondiales en fait.
Il est enterré, je pense.
Voilà, mais ça c'est un mélange américain aussi, c'est-à-dire que son communisme n'exclut pas une forme d'amour de l'Amérique, justement, parce qu'il aime l'Amérique qu'il est communiste, c'est allant plutôt comme ça. Et ça c'est ce que j'ai voulu montrer aussi. Voilà.
Alors, Tim Willox, donc là, vous nous faites découvrir un d'Achille Lameth qui se rend compte effectivement qu'il travaille dans une agence de détective qui est aussi chargée de casser des grèves et de briser, c'est le moins qu'on puisse dire, certains syndicalistes. Donc ça a été évoqué, la mise en avant de l'aspect politique de l'homme Hamet, de l'œuvre de Hamet. Mais je pense que vous avez aussi voulu rendre hommage au style d'Achille Lameth qui a créé justement une écriture, qui a créé, on dit qu'il est le fondateur du roman noir américain, mais c'est plus que ça, c'est le créateur d'un style, d'une écriture. Alors comment établir ce lien entre le d'Achille Lameth politique et le d'Achille Lameth écrivain?
D'Achille Lameth as a writer.
It was partly by in the drama of the story to portray the political world he was living in.
Donc ça faisait tout à fait partie de l'histoire de Dashiell Hammett de montrer l'aspect politique de sa vie.
And through the voice of the narrator to use some of his phrases and stylistic references.
Et à travers la voix du narrateur, il fallait bien évidemment montrer les références stylistiques et des références de Dashiell Hammett.
I mean, Hammett was a very great innovator in American in writing in English.
Et Dashiell Hammett était bien évidemment un des grands innovateurs dans la littérature en anglais.
I mean, Ernest Hemingway tends to get all the credit for writing in a very direct minimalist style, but Hammett was actually there before him.
OK. Donc Ernest Hemingway, on pense qu'Ernest Hemingway était le grand écrivain américain qui a écrit une littérature minimaliste, mais il y avait eu bien évidemment Dashiell Hammett avant.
I think Hammett had the great advantage as a writer of not taking himself too seriously, of not having grand literary ambitions.
Donc Dashiell Hammett, en fait, l'avantage avec lui, c'est que pour lui, ce n'était pas un acquis, il ne se prenait pas trop au sérieux, contrairement à Hemingway, comme sujet.
I think it's true in all the arts, but once you start to take yourself too seriously as an artist, your work gets into trouble.
Ouais, à partir du moment où vous prenez un peu trop au sérieux en tant qu'artiste, votre travail en pâtit, en fait.
It's interesting that a lot of the old-time film directors absolutely refused the idea that they were artists.
Et c'est pour ça que beaucoup de réalisateurs en fait refusent l'idée même de se considérer comme artiste.
And they made much better movies.
Et ça se voit dans les films en fait.
And as soon as you start trying to think of yourself in terms of a great artist, you're it's like having hands strangling your work.
Ouais, en fait, si vous imaginez en tant que grand artiste, mais bien évidemment, votre travail, on va en pâtir, et c'est comme si vous mettiez un étau autour de votre travail au lieu de le libérer, en fait.
So Hammett's style is very free, it's very direct, it's very humanistic in that sense.
Donc le style de Dashiell Hammett est très libre, très direct et très humain au final.
He's concerned with the characters, the world, not with how he will be perceived.
Et pour lui, ce n'est pas le souci de savoir comment son personnage va être perçu, en fait.
And I'm sure his style also evolved from his life, which was very much spent in direct contact with people of the world.
Et bien sûr, sa vie a bien eu une influence sur son style, puisqu'il a été beaucoup en contact direct avec les gens.
He didn't grow up in a refined environment.
Il n'a pas grandi dans un univers feutré.
So he was used to men and women who were very direct.
Et donc il était très habitué aux personnes qui étaient très directes.
And he didn't have any illusions about the way the world is.
Et il n'avait aucune illusion sur comment était le monde.
You know, the world is violent and corrupt and unjust.
Donc le monde est violent, injuste et corrompu.
And those are all the aspects I've tried to put into the story.
Et ce sont les aspects que Tim Willox a voulu montrer dans sa nouvelle.
Alors justement, Nathalie Benin, on a fait la première étape. Vous avez cette idée de rendre hommage à Hammett. Vous contactez des écrivains, ils acceptent, ils sont heureux d'accepter cette commande. Les nouvelles vous reviennent. Comment vous les recevez? Et justement, peut-être avant d'aborder le retour de ces nouvelles. Et pour faire le lien entre le style choisi par les auteurs qui ont écrit ces nouvelles et celui de Dashiell Hammett, un petit mot peut-être sur justement le style de Dashiell Hammett, qu'on qualifie souvent le behavioriste.
Oui, alors Tim Willox vient d'en parler très bien. C'est d'ailleurs intéressant toujours d'avoir sur cette question du style hammettien le point de vue d'un écrivain, parce que moi je ne suis pas écrivain. J'ai travaillé sur Hammett pendant un certain nombre d'années. Et justement, s'il y a quelque chose qui me plaît dans l'œuvre de Hammett, c'est justement ce fameux style. Alors, Tim en a bien parlé en expliquant effectivement en quoi il consistait du point de vue de ce qu'il ressent comme écrivain. Ce que je voudrais dire, c'est que le style comportementaliste, il n'est pas né de nulle part aux États-Unis. Vous citiez ce style comportementaliste vient du behaviorisme, donc behavior en anglais, c'est le comportement, donc. Et c'était une théorie sociologique qui consistait à analyser les faits de société par des méthodes d'observation. Donc le style comportementaliste de Hamet, il vient de certainement cette influence qui était liée à son époque, mais surtout, et là Jérôme Leroy a très bien montré l'importance qu'a eu dans la formation du jeune Hamet l'enseignement qu'il a reçu de son patron à la Pinkerton. Mais son patron, quand il lui apprenait les techniques de base du métier de détective, techniques de filature, suivre quelqu'un qu'on verra toujours de dos, finalement, l'ironie de la chose, c'est que Hamet va transformer cet apprentissage-là, qui est un apprentissage professionnel, dans sa manière d'écrire, c'est-à-dire que son écriture, on a parlé de style extrêmement dégraissé, vous avez employé, Guy, l'expression littérature à vif, etc. C'est en fait une façon d'écrire qui s'affranchit de toute psychologie. Jamais, dans aucun des romans, des 5 romans de Hamet et des 60 nouvelles, vous n'allez être dans la tête d'un personnage, vous n'allez jamais savoir ce qu'il pense. Et ça, c'est la grande force de Hamet, c'est-à-dire, si vous avez, je ne sais pas, une scène dans Le Faucon Maltais, Sam Spade, son téléphone sonne, on lui apprend que son coéquipier Archer vient de se faire descendre. La manière dont il va se réveiller, rouler sa cigarette, l'éthique qu'on va voir apparaître sur son visage, tout ça tient lieu de ses pensées, c'est-à-dire que ça ouvre effectivement un champ des possibles incroyable d'un point de vue narratif, parce que, on parlait d'Hemingway, Hemingway a écrit une nouvelle que je trouve remarquable du point de vue du style objectif, c'est Les Tueurs, The Killers, et Tim Willox avait raison de dire que Hemingway s'est beaucoup servi, y compris dans les néologismes, dans le vocabulaire chez Hamet. Toute l'œuvre de Hamet est écrite de ce point de vue extrêmement détaché, point de vue narratif, comme le ferait l'œil de la caméra. C'est-à-dire, je vous rappelle que les années 20, c'est le début du cinéma, et qu'on a parlé aussi de littérature, en comparant cette littérature à l'œil d'une caméra qui ne rendrait compte que ce que la caméra voit. Et je voudrais terminer, puisque on parle du style, et c'est tout à fait intéressant de montrer, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, que Hamet était un homme de son temps. En 1927, le premier film parlant, donc le chanteur de jazz, naît, puisqu'il y a une chanson au piano, enfin voilà. Et d'un seul coup, les studios se rendent compte qu'ils tiennent une sorte de mine d'or, de manne. Ils se disent, mais avec les dialogues et la musique, on va exploser cette industrie naissante. Et c'est sans surprise que les studios vont faire appel à des auteurs qui écrivent comme Hamet dans Black Mask ou dans d'autres pulps, des histoires de détectives, mais surtout qui écrivent avec ce style comportementaliste extrêmement scénarisé. Et ils vont faire appel à ces auteurs-là parce qu'ils tiennent des scénaristes sans avoir eu besoin de les chercher très loin. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment... finalement, les événements, là il ne s'agit pas d'événements historiques, mais d'événements techniques, l'arrivée du parlant va propulser tous ces auteurs qui étaient des écrivains qui écrivaient, qui étaient payés au mot, qui étaient des stacanovistes de l'écriture et qui étaient très mal considérés. Eh bien, on va tous les retrouver à Hollywood avec des carrières de scénaristes avec plus ou moins de bonheur. Et c'est une histoire que je trouve absolument ironique.
Alors, je voudrais maintenant aborder la question du lien entre l'œuvre de Dashiell Hammett et ce que cette œuvre a pu inspirer, enfin, vous conduire dans votre travail d'écrivain d'aujourd'hui. Tim Willox, vous êtes connu notamment pour deux romans noirs historiques. Jérôme Leroy, vous, on peut plutôt parler de romans qui tournent autour des questions d'anticipation. On est quelque part un petit peu loin de Dashiell Hammett qui, lui, s'attachait à raconter des histoires de son temps. Comment vous vous inscrivez quand même dans cette lignée alors que vous avez fait des choix d'écriture Jérôme et ensuite Tim Willox.
Ouais, oui. Moi, je crois que je parle de mon temps, en fait, vraiment. C'est-à-dire que les deux derniers, que ce soit L'Ange Gardien ou Le Bloc, je pense que je parle vraiment de mon époque. C'est-à-dire qu'après, on peut toujours estimer que ça se passe 2-3 ans en avance, mais mm-hmm. Je veux dire, il n'y a pas de gadget, il n'y a pas de voiture.
Il y en a eu avant, Jérôme, qui se passait.
Oui, il y en a, c'est vrai, il y a eu avant. Oui, ouais. Mais je parle sur effectivement les deux. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est ce que vient de développer un peu Nathalie qui intéresse chez Hammett, c'est que bon, il faut jamais séparer le fond de la forme. Si Hammett écrit comme ça, c'est parce qu'il a à rendre compte d'une réalité nouvelle. C'est une écriture nouvelle pour une réalité nouvelle, c'est-à-dire c'est l'apparition de la grande ville, c'est l'apparition du capitalisme moderne avec sa tendance monopolistique, c'est l'apparition de la collusion entre la politique et les crimes organisés. Donc tout ça, c'est une réalité nouvelle. Donc il faut une écriture nouvelle. Alors après, moi, en tant qu'écrivain, il faut faire très attention. C'est-à-dire que c'est comme quand je fais référence à Manchette. Il n'y aurait rien de pire que de vouloir pasticher du point de vue du style. Parce que, par exemple, déjà, pour Hammett, on pasticherait une traduction qui, avant que Nathalie Toilette, tout ça, était quand même parfois un peu... Les premières traductions de Hammett, c'est quand même un détective qui dit saperlipopette, quoi. Donc c'est pas franchement, c'était voilà, ça avait vieilli. Donc il faut faire très attention à ne pas pasticher. Ceci étant dit, par exemple, je vais prendre l'exemple simple du comportementalisme. Effectivement, chez Hammett, il n'y a jamais, on pourrait peut-être en trouver une, mais il n'y a jamais une notation psychologique au sens il se sentait triste, par exemple. Ce genre de phrase n'existe pas. Bon, moi, je me l'interdis pas. Je me l'interdis pas parce qu'effectivement, il ne s'agit pas non plus d'être dans une espèce de reproduction. Oui, ça serait un pastiche de reproduction d'une écriture telle quelle. Donc, ce qui fait que, en toute modestie, hein, mais je me sens hammettien, en tout cas, et manchettien, si on prend, etc., c'est plutôt dans une façon d'aborder la réalité qui donne l'impression presque qu'on est d'une manière un peu décalée. Voilà, c'est des angles de vue, parce que effectivement, je pense que le roman, c'est le roman qui parle de son temps, c'est pas un reportage, c'est un réagencement de la réalité, c'est-à-dire qu'on place, c'est un réagencement de la réalité que nous vivons tous. Et le romancier, s'il a envie de parler de son temps, s'il veut pas faire un simple reportage romancé, il fait une nouvelle architecture, en fait. Il réagence la réalité. Il dit ça, ce que vous trouvez être une information secondaire. Moi, j'en fais l'information prioritaire et j'en fais le nœud du problème. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça, c'est cette façon d'aborder son temps en essayant de trouver l'écriture adaptée au sujet. C'est une démarche hammettienne et c'est une démarche, moi, à titre personnel, je m'inspire beaucoup, oui.
Tim Willox, sur cet aspect justement du roman Témoin de son temps, vous avez choisi d'écrire sur une période historique qui remonte à plusieurs siècles. Comment vous inscrivez cette volonté de vous inscrire dans la lignée de Dashiell Hammett, écrivain Témoin de son temps?
Well, my last novel, Les Deux Enfants de Paris, is very much a kind of Moisson Rouge set in Paris in the 16th century.
Donc, en fait, son dernier roman, Les Douze Enfants de Paris, a beaucoup de points communs avec La Moisson Rouge de Dashiell Hammett, sauf que ça se situe dans le 16e, au 16e siècle à Paris.
It's a story about a man who comes to a big city which is full of corruption, violence and chaos and he has to find his way through it to solve various mysteries.
Donc c'est l'histoire d'un homme qui arrive dans une ville, dans une grande ville, corrompue, très violente, et il doit trouver son chemin et résoudre des mystères dans cette ville.
And the Moisson Rouge is still incredibly powerful modern novel. It hasn't aged at all.
La Moisson Rouge n'a pas vieilli. Et c'est un roman très moderne, très, et on pourrait trouver des problématiques actuelles encore aujourd'hui dans Moisson Rouge.
I think one of the big differences between our time and Hammett's time is that for Hammett, the injustice of the world, the criminality of capitalism, because capitalism is organized crime.
Donc la différence entre peut-être aujourd'hui et l'époque d'Hammett, c'est que à l'époque d'Hammett, le capitalisme était le crime organisé.
The difference is that in those days you couldn't help but see that. You just open your eyes and you see injustice in front of your face.
Et il suffisait d'ouvrir les yeux tout simplement et regarder autour de vous pour voir l'injustice devant vous.
And in our modern lives in the West, it's hidden. We can't see it anymore.
Mais aujourd'hui dans notre monde occidental, c'est caché.
You know, we look around and we see well-fed, healthy people who aren't being oppressed in any obvious way.
Mm-hmm. Et si vous regardez autour de vous, vous voyez des gens qui ont l'air bien nourris, qui ont l'air en bonne santé, qui n'ont pas l'air d'être opprimés en apparence.
But the slaves are still working. The difference is they're now working for us.
Et la différence c'est que maintenant ils travaillent pour nous en fait.
You know, the guys working in the mines in Montana were there, but now they're working in China and Indonesia, and we just don't see them anymore, so
ouais,
we don't care.
Avant tous les métiers pénibles comme les travaux de la mine dans le Montana étaient, on les voyait, ils étaient devant nous. Mais aujourd'hui, ça se passe en Chine, ça se passe en Afrique.
I mean, the labor cost of this iPhone, I read, is $6. The people, the men and women who built this iPhone, were paid $6 to make it.
Donc le coût du travail pour l'iPhone qui vient de montrer, c'est $6.
Which is absurd.
Ce qui est complètement absurde vu le prix de l'iPhone auquel on vous vend ce téléphone portable.
And the true labor cost is that in the factories where they make them, they have to have suicide nets outside the building.
Et ils ont dans les ateliers, en fait, ils ont des filets anti-suicide. Et ça, c'est le véritable coût du travail.
Because so many people try to kill themselves by jumping off, because their life is so terrible.
Et leur vie est si terrible que ils sont obligés de mettre des filets anti-suicide. Sinon, il y en aurait beaucoup plus.
So the kind of political and economic injustice that's portrayed in the Hammett story is still completely present in the world. It's just that it's concealed from us now.
Et donc l'injustice qui est montrée dans l'œuvre d'Hammett, elle est toujours là. C'est juste qu'on ne la voit plus. Elle est cachée. Elle est déplacée.
In that sense, we're all working for the Pinkertons now. You know what I mean?
Et dans un sens, c'est nous qui travaillons pour les Pinkertons.
Except it's like it's the Apple, because we're working for Apple. You know, we're all working for Apple.
On travaille un peu tous pour Apple, en fait.
Alors, justement, Tim Willox, c'est bien de revenir à cet aspect du personnage Hammett, son travail de détective. Hammett qui n'était pas prédestiné à l'écriture, hein. Peut-être Nathalie Benin nous dira un mot là-dessus. C'est un peu le hasard s'il devient écrivain. Mais en tout cas, donc cette expérience professionnelle de détective a complètement inspiré son œuvre littéraire. Alors vous, Tim Willox, vous êtes médecin. Au niveau de votre formation professionnelle, de première activité professionnelle. Et ce qui est frappant, alors là, je cite Nathalie Benin, hein, qui est, c'est l'extrait d'un petit livre, La cavale de Billy Micklehurst, hein, qui a été écrit par Tim Willox, et dans lequel on trouve un entretien entre Nathalie Benin et Tim Willox. Nathalie qui dit, donc ce qui est frappant dans tous vos romans, et plus particulièrement dans cette nouvelle, est votre manière de rendre compte de la souffrance, qu'elle soit mentale ou physique, sans vous laisser aller outre mesure à la complaisance ou à la pitié. Alors y a-t-il un parallèle à établir avec le travail du médecin qui consiste peut-être lui aussi de manière identique à mettre des mots sur la souffrance. Hein, et donc, quelle influence sur votre œuvre, de votre activité de médecin, de votre travail de médecin?
Working in medicine gives you a great experience of people who are struggling in a crisis of some kind.
Donc le fait de travailler comme médecin, ça vous donne un excellent point de vue pour vous rencontrer des tas de gens qui luttent, qui sont dans des états de crise en fait.
So you see a fantastic range of human behavior, of human feelings, of human struggle.
Et donc vous voyez une palette incroyable de différents combats, de différents sentiments et d'expression de ces sentiments à travers les patients.
And I think that's got to be a great experience for a writer.
Et ça c'est justement une très bonne expérience pour les écrivains en fait.
But I was in a way as a boy I was a writer before I was a doctor.
Mais quand il était jeune, en fait, il écrivait déjà, avant même d'être médecin.
I mean, in that sense, I think the novel's one of the great inventions of human history.
Et le roman, c'est une des plus belles inventions de l'humanité.
I mean, you talk about Hammett, who, as you say, had no particular training or academic. Experience of writing.
Donc, on parlait tout à l'heure de Hammett qui n'avait pas de diplôme particulier, qui n'avait pas justement grandi dans cet univers où il était facile d'écrire en fait.
So the novel's a very free kind of democratic form. Anybody can pick up a pen and write.
Et le roman c'est quelque chose de très démocratique et tout le monde peut prendre un stylo. Et se mettre à écrire un roman.
And that's why I think it's very important to defend the novel in these days of its decline.
Et c'est pour ça qu'il est important de défendre le roman qui malheureusement aujourd'hui est un peu sur le déclin.
You don't need great resources to write a novel and you can say anything you want.
Et vous n'avez pas besoin de grand chose pour écrire un roman. Et vous pouvez écrire tout ce que vous voulez.
You can give a voice to ideas, to characters who wouldn't otherwise have any voice.
Et vous pouvez donner un porte-voix à des idées, à des personnes qui, en temps normal, ne l'auraient pas.
You can transport people, readers, writers, can be transported into a different reality.
Et on peut être transporté dans une réalité tout autre.
And that's still one of its greatest powers.
Et c'est encore aujourd'hui l'un des plus grands pouvoirs du roman.
I mean, again, Hammett exactly did that. I mean, when I was a boy reading Hammett in the north of England, I was transported into San Francisco.
Et lui, il a eu la chance de lire Hammett quand il était jeune, et ça le transportait de son nord de l'Angleterre natale à San Francisco, à Chicago, aux États-Unis.
So it's still a uniquely powerful way of making ourselves think about the way the world is.
Et c'est une façon unique de nous faire réfléchir sur ce qu'est le monde et comment le percevoir.
Alors, Nathalie Benin, Tim Willox nous expliquait qu'il avait commencé à écrire avant d'être médecin. Dashiell Hammett, lui, n'a pas écrit avant d'être détective. A priori, à ma connaissance.
Écoutez, d'une part, je serais bien embêtée pour vous répondre parce qu'on n'a aucun élément sur la vie de Hammett avant la guerre, c'est-à-dire à peu près fin 17, début 18, quand il est mobilisé, comme tous les jeunes de sa génération, pour partir faire la guerre en Europe. Alors, lui ne pourra pas y aller parce que en 17, il y a une épidémie qui fera des millions de morts qui s'appelle la grippe espagnole. Qui va dévaster les camps américains. Donc lui, il fait partie de ces soldats qui sont atteints par la grippe espagnole. Et lui, ça va se matérialiser par une tuberculose qui, au début du XXe siècle, équivalait à une mort assurée. Et donc, on commence à avoir des informations sur Hammett de ses lettres quand il est dans les sanatoriums de l'armée. Je voulais revenir sur une chose, c'est que... Ce serait évidemment beaucoup trop simple et voire simpliste de, de dire que Ahmed, c'est un détective qui est devenu écrivain simplement parce qu'il a écrit des histoires de détectives, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Tout ce qui a été dit autour de cette table sur l'interaction entre l'époque dans laquelle il vit, ce qu'a dit Jérôme sur l'essor de ce capitalisme sauvage au sortir de la guerre, puisque l'histoire du mouvement ouvrier américain le prouve, les grèves avant, mais surtout après la guerre de 14, ont été réprimées de manière extrêmement atroce. L'histoire que raconte Tim dans sa nouvelle, même si je ne veux pas déflorer le sujet, c'est un peu l'histoire de Frank Little, qui était le patron, enfin celui qui dirigeait le Industrial Workers of the World, ce syndicat anarcho-syndicaliste. Il a été lynché de la plus horrible façon. On a traîné son cadavre dans la ville de Butte, dans le Montana, où se passe la nouvelle de Tim. Et donc, l'essor de... Enfin, ce capitalisme sauvage, il va, d'une certaine façon... nourrir et l'imaginaire et la mythologie et les méthodes du crime organisé. Je vous invite à lire un livre qui est sorti chez Alia dans cette petite collection sur Alfonsi Caponi, donc connu pour être Al Capone. La manière dont il va mettre la ville de Chicago en coupe réglée, je vous assure que Moisson Rouge à côté, c'est rien, quoi, parce que c'est ce crime organisé, et on connaît maintenant l'influence de la mafia dans nos vies, puisque je lisais récemment, même à la City à Londres, le gouvernement britannique a été obligé de légiférer pour demander aux banques de la City d'arrêter de blanchir l'argent des cartels mexicains. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment la mafia, et d'ailleurs hier soir j'étais comme beaucoup extrêmement bouleversée par le témoignage du juge de Palerme, donc qui est Roberto Scarpinato, je ne voulais pas écorcher son nom, qui est invité par le festival Colère du Présent. Ce qu'il raconte, la collusion entre la mafia, c'est-à-dire les gars qui vont vous tuer, enfin, ce qui est anecdotique, et la véritable mafia, qui est cette mafia en col blanc, Ahmed, il raconte la gestation de tout ça, c'est-à-dire de 1920 à 1930, c'est la mise en place d'un système dont aujourd'hui nous avons, si je puis dire, l'expression la plus mondiale, la plus tentaculaire. Et Tim a raison de dire qu'elle est d'autant plus perverse qu'elle n'est pas aussi visible que ça. Il faut vraiment faire acte de courage, comme c'est le cas de ce juge palermitain. Mais en tant que citoyen, il faut vraiment aller chercher l'information, parce que sinon, on est dans... Je sais pas, on est dans un monde parallèle, quoi. On pense que tout va bien, mais tout va pas bien du tout, tout va mal. Et la situation, elle est vraiment grave.
Alors, ce rendez-vous se termine. Un mot, Jérôme Leroy. Vous situez une partie importante de votre nouvelle à Green River. Oui. Et Green River, c'est le titre d'un roman de Tim Willock. C'est un clin d'œil ?
Oui, c'était un clin d'œil. Voilà. Bah, c'est bien de l'avoir vu parce que c'est le premier. Voilà. Donc,
mais Green River, voilà. Ça existe ?
Oui. Non.
Ah, ouais. C'est pas une ville du Colorado ?
Non, oui, enfin, il y en a plein. C'est bien pour ça que je l'ai pris. Green River, c'est comme, je sais pas, Saint quelque chose chez nous. Voilà, il y en a plein. Donc effectivement, j'ai bon Green River, et puis comme c'était pour y en avoir à peu près partout, c'était un hommage effectivement à ce roman de Tim, qui est un grand roman noir aussi. Voilà.
Donc les nouvelles du recueil sont signées, on va les citer, Benjamin Julien Guérif, Marcus Malt, qui est présent aujourd'hui au salon, Jean-Hugo Pell, Benoît Sévrac, Marc Villard. Alors, bien entendu, Jérôme Leroy, Tim Willox. Tim Willox, alors, particularité, c'est quand même intéressant dans ce livre. Il y a la version traduite par Nathalie Benat et la version originale en anglais, hein, donc, ce qui est un plus intéressant. Et ensuite, donc, Stéphanie Benson. Une seule femme dans cette liste, Nathalie Benat. Le roman noir serait-il masculin ?
Non, le roman noir n'est pas spécialement masculin, c'est le pur hasard. Et comme je suis, en tant que vieille féministe, absolument pas d'accord avec ces histoires de parité, je trouve que ça, c'est comme, enfin, je trouve ça un peu stupide. Simplement, c'est la seule femme, c'est comme ça. Et le roman noir n'est pas plus féminin que masculin, puisque, comme vous le savez, la littérature policière est lue essentiellement par des femmes. Donc c'est le pur hasard, voilà.
Alors, donc, Ahmed Détective, sous la direction de Nathalie Bonnat aux éditions Syros, sans oublier les lectrices et lecteurs auxquels ce recueil de nouvelles s'adresse, des adolescents qui devraient effectivement être sensibles aux aventures de ce très jeune homme confronté aux dures réalités du monde, sans oublier donc ces lectrices et lecteurs auxquels ce recueil s'adresse, ce livre intéressera tous les amateurs du genre, mais aussi celles et ceux qui ont envie de découvrir le roman noir, puisqu'il dresse un portrait très documenté d'un auteur emblématique et qui va au-delà de sa découverte du métier de détective. Vous retrouverez Nathalie Bonnat et Tim Willox en dédicace dans la foulée de cette émission au chapiteau jeunesse, ou le chapiteau jeunesse. Vous les retrouverez aussi à partir de 15h, 15h30 au chapiteau littérature générale avec tous leurs ouvrages, et ils sont nombreux. Quant à Jérôme Leroy, il ne va pas beaucoup souffler puisqu'il signe aussi jusque 13h sur le secteur jeunesse. Il participe ensuite à 14h à la table ronde organisée et animée par l'association 813 autour des 70 ans de la série noire. Ce sera au ciné Movida. Encore merci à vous trois. Merci aussi à Maxence pour la traduction, à l'équipe bien entendu technique de Radio PFM. Dans un instant, vous avez rendez-vous sur ce même studio, toujours en public et en direct, du Salon du Livre d'Expression Populaire et Critique Sociale avec la BD. Quant à moi, je vous retrouve à 17h à ce même micro pour une rencontre avec 813 sur le thème. On reste dans le même sujet, roman noir, roman politique.